Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast, ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Cette semaine, je reçois Benjamin Lenoir, fondateur de la marque de vêtements éthique et responsable Coton Vert. Comme tous les ans, en parallèle des Fashion Week de Paris, Londres et Milan, se tient, au mois d'avril, la Fashion Revolution Week. Le 24 avril 2013, s'est effondré, à Dhaka, au Bangladesh, un immeuble de plusieurs étages abritant de nombreux ateliers de confection. Des centaines de personnes y ont trouvé la mort. Depuis ce tragique accident, le collectif Fashion Revolution a créé un mouvement incitant chaque individu à se questionner sur la provenance de ses vêtements et à demander des réponses concrètes aux marques de l'industrie textile. Mon invité du jour, Benjamin, a créé Coton Vert avec l'envie de répondre parfaitement aux besoins des consommateurs. Il a donc inscrit son projet dans une démarche collaborative en questionnant des centaines de personnes. Grâce aux nombreux échanges avec sa communauté, Benjamin a décidé de proposer une gamme de vêtements basiques, en coton bio, à prix accessible. Il nous raconte dans un premier temps son aventure, et puis nous explique comment il arrive, malgré la situation actuelle et le confinement, à garder le moral. Malheureusement, notre conversation a été interrompue de manière impromptue, mais j'espère que l'épisode vous plaira. Il est possible, selon les appareils, que la qualité sonore soit un petit peu altérée. Mais j'ai été contrainte de faire face, comme nous tous, à cette situation inattendue. Bonne écoute à tous. Bonjour Benjamin.
Salut Jeanne, merci pour l'invitation.
Eh bien, merci à toi de répondre à mes questions à distance, puisque nous sommes en pleine période de confinement. Suite au coronavirus, Covid-19, donc voilà, une actualité un petit peu étrange, mais c'est vraiment un plaisir de te recevoir au micro de Basilic. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Ouais, bah d'abord encore merci pour l'invitation et puis plaisir partagé. Je connais aussi ton podcast depuis, je crois, 6 mois environ. Je l'avais notamment découvert grâce à une autre marque, donc Oli, et me présenter, bah ouais, pas de souci. Donc Benjamin, je vais vivre mon anniversaire pendant le confinement, ça va être peut-être un peu étrange, j'aurai 28 ans, j'habite à Rennes, voilà, j'ai lancé Coton Vert maintenant il y a environ 2 ans, d'abord via un crowdfunding, et puis s'en est suivi le site internet. Et Coton Vert, en gros, c'est une marque de basiques bio et solidaire. Et je vais pas en dire plus, parce que je crois qu'on va développer par la suite.
Tout à fait. Toi, tu travaillais déjà dans la mode avant, dans cet univers du textile ?
Alors, je travaillais pas du tout dans la mode. C'était pas spécialement un univers qui me passionnait. Et d'ailleurs, c'est pas forcément un univers qui me passionne encore aujourd'hui. Parce que moi, je m'habille, voilà, de façon assez simple. Voilà, j'aime bien les vêtements bien coupés, mais au final assez classique. Et non, alors moi, j'ai fait un master en communication, et en fait, j'ai lancé Coton Vert lors de mon avant-dernière année d'études, donc à l'été 2017, je crois, si je me trompe pas. Et en fait, enfin, quand je dis j'ai lancé Coton Vert, c'est là que j'ai eu l'idée du projet, et j'ai lancé en fait à l'époque un groupe Facebook sur lequel j'ai d'abord réuni une certaine communauté de gens qui souhaitaient grosso modo s'habiller mieux, quoi. Et en fait, on a fait le projet qu'avec ces gens-là via tout un tas de sondages et de recherches et de discussions avec ces gens-là. Et donc j'ai fait ça 1 an en parallèle de ma dernière année d'études, et que dire, et du coup le projet n'était pas encore lancé officiellement. En fait, le crowdfunding est sorti 1 an après le lancement de ce groupe. Donc tu vois, il y a quand même eu, on va dire, une grosse préparation, beaucoup d'échanges avec les gens, etc., avant de voir le premier t-shirt naître.
Donc tu as vraiment travaillé sur une longue période de réflexion et avec des gens pour te conseiller, t'aiguiller, pour essayer de répondre à un besoin.
Ouais, voilà, complètement. À savoir aussi que si ça a pris aussi longtemps, c'est que j'avais quand même du boulot à côté, parce que j'avais le mémoire pour le master, et aussi je travaillais en alternance, alors dans un environnement qui n'avait pas grand-chose à voir. J'ai fait un stage en alternance dans un cabinet de recrutement. Et bref, du coup, j'ai mené tout ça de front. Donc, je pense que le projet aurait vu le jour plus tôt si j'avais pas eu ces autres activités à côté. Mais néanmoins, c'était nécessaire aussi, tout ce temps passé était nécessaire pour la suite du projet, parce que tu parlais notamment du besoin, qui est quand même, je pense, fondamental quand tu lances un projet. Le premier truc, enfin, à mon sens, c'est quand même de répondre à un ou des besoins. Et là-dessus, j'ai eu la chance d'échanger, en fait, avec je dirais, des centaines de personnes engagées et qui partageaient mes valeurs. Et effectivement, je les ai beaucoup questionnés sur leurs besoins, aussi sur leurs freins. Qu'est-ce qui fait que certains ou certaines auraient souhaité consommer plus éthique, mais il ou elle ne le faisait pas autant qu'elle l'espérait. Et voilà, il y avait tout un tas de raisons dont j'ai pu me servir en fait pour créer le projet et essayer de répondre à ces freins-là et ces besoins-là, quoi.
Comment est née l'idée en fait? Parce que tu nous as dit que tu l'avais créée pendant tes études, mais tu nous as pas dit quel a été le déclic. Est-ce que toi, tu as grandi avec une conscience écologique? Tu as grandi au sein d'une famille engagée?
Ouais, alors il y a plusieurs éléments à ça. De base, je dirais que j'ai eu des parents assez engagés. Enfin, assez, voilà, on consommait pas mal bio. Enfin, ils étaient assez, ouais, dire entre guillemets précurseurs là-dessus. Aussi assez peu achetés, à acheter pas mal aussi d'occasion. Du coup, ça a forcément joué. Et après, il y a également le fait, et je pense que ça a été un bon déclic aussi, c'est que, en fait, moi, je t'ai parlé là des études un peu qui avaient rien à voir avec le projet. Mais j'ai aussi été bénévole, en fait, dans une association, Artisans du Monde. Je sais pas si ça te parle. Voilà, c'est en gros une asso qui a des boutiques un peu partout en France, et c'est des boutiques qui vendent des produits issus du commerce équitable. Donc ils font de la vente, mais aussi beaucoup de sensibilisation et aussi d'éducation dans les écoles par rapport au commerce équitable. Et en fait, moi j'ai fait un stage chez eux dans un premier temps pour ma licence. Ensuite j'ai fait un donc d'un mois à peu près, un ou 2 mois. Ensuite, comme ça m'avait plu, un stage plutôt dans la com, du coup. Ensuite, comme ça m'avait plu, j'ai rempilé sur un service civique l'année suivante, donc toujours en parallèle de mes études. Donc là, ça a duré 7 mois, si je me trompe pas. Et depuis, en fait, je suis bénévole chez eux. Enfin, voilà. Pour résumer, ça fait à peu près 4 ans que je suis engagé dans cet asso, bien que, forcément, depuis le début de Coton Vert, j'ai beaucoup moins de temps pour eux, malheureusement, Et donc ça, pour te répondre, ça a fait partie du déclic, parce que quand tous les jours tu es confronté au commerce équitable, à voir un peu la réalité des producteurs, etc., forcément tu développes certaines valeurs que tu avais probablement déjà au fond de toi, mais à puissance 10. Et bref, tout ça a fait que Coton Vert est né. En parallèle, si je peux juste compléter, ça c'est pas forcément le côté éthique du projet, mais en parallèle, moi j'avais vraiment l'envie d'abord d'avoir un métier pour lequel je trouvais du sens, mais également d'être assez libre. Et du coup, à titre personnel, moi le salariat, je pense, ne me conviendrait absolument pas. Du coup, il y avait aussi ce truc-là, de pas vouloir être salarié, de pas vouloir avoir un lieu fixe pour travailler, un bureau, des patrons, etc. Et bon, tout ça conjugué, c'était une réponse assez longue, mais tout ça conjugué a fait le lancement finalement de Coton Vert, voilà.
Non, mais c'est intéressant et puis j'aime bien savoir comment est née l'idée et comment les gens ont eu envie de s'engager. Je trouve ça toujours très intéressant. C'est la preuve que ça peut naître de plein de choses différentes. Ça peut naître d'une rencontre, ça peut naître d'une éducation, d'une formation, d'un parcours scolaire. Enfin, voilà, c'est très, très varié.
Pour ma part, je pense que, comme je t'ai dit, c'était une somme de facteurs.
Et donc, toi, tu as choisi de t'engager dans le domaine de la mode. Est-ce que, selon toi, la mode, c'est un secteur pour lequel on n'a pas vraiment cette prise de conscience écologique, ou du moins, on ne l'avait pas à l'époque?
Quand tu dis « on », tu parles plutôt des consommateurs?
Des gens en général, des consommateurs, est-ce que c'est un secteur où on a un peu moins de recul, on est un peu moins averti?
En tout cas, ce qui est sûr, enfin, en tout cas, j'en ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, quand même, les choses avancent bien. Il y a de plus en plus de marques éthiques, de projets éthiques qui se créent. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de clients pour ces marques-là. Et de plus en plus de gens qui ont une certaine prise de conscience et qui ont envie de peut-être d'acheter moins, du coup, mais mieux. Et mais c'est vrai que tu as raison, c'est quand même encore assez, assez nouveau. Et du coup, moi, quand j'ai lancé le groupe, ouais, c'était il y a 3 ans, je pense qu'il y avait encore moins cette prise de conscience. Mais néanmoins, tu vois, si les gens ont rejoint le fameux groupe de l'époque, et donc ça avait pas mal pris, il y avait eu plusieurs centaines de personnes à rejoindre le groupe, sans savoir d'ailleurs exactement ce que j'allais faire. J'avais juste dit que j'allais faire des vêtements éthiques, mais sans rien préciser. À ce moment-là, voilà, les gens avaient quand même rejoint plutôt massivement le groupe, donc c'était quand même qu'il y avait, enfin c'était une preuve qu'il y avait quand même une envie de pas mal de gens, voilà, d'essayer de consommer mieux. Après, c'est sûr que voilà, ça passe encore largement au second plan face à par rapport à l'alimentaire, par exemple. Et tout ça, je dirais malheureusement, ça vient aussi de notre éducation qui a été faite par toutes ces publicités qu'on a pu voir, on peut les citer, enfin toutes ces marques de fast fashion qui nous ont attirés en fait par des prix très bas. Et en fait, pour beaucoup d'entre nous, on est humain, c'est quelque chose d'attirant généralement le prix bas. Alors de moins en moins, parce qu'on comprend qu'il se cache des choses derrière bien souvent. Mais c'est vrai que pendant des années, je pense que les gens n'ont pas trop réfléchi à ça par des discours bien huilés, des publicités. Et en fait, peut-être ce besoin. Alors moi, franchement, je n'étais pas vraiment dans cette case-là, mais je sais qu'il y a aussi pas mal de gens qui aimaient beaucoup renouveler leurs vêtements, accumuler en fait les vêtements. Mais tout ça, voilà, c'est pas de notre faute à nous en tant que consommateurs, parce que je m'inclus quand même là-dedans.
Bien sûr.
C'est toute cette éducation en fait qui est un peu à refaire et qui a été édictée par ces marques-là. Et en même temps, j'ai pas l'impression que les différents gouvernements, je veux pas forcément faire de politique ici, mais j'ai pas l'impression que c'était un sujet vraiment important aussi pour nos différents gouvernements. Et du coup, il n'y a pas eu spécialement de débat sur ce sujet-là. Et j'ai l'impression que ce débat, il arrive quand même plus aujourd'hui. Et notamment grâce à l'impulsion, voilà, de marques, mais aussi d'associations qui poussent bien les choses. Et aussi, des consommateurs, du coup, qui sont, j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses de ton côté, mais qui sont, j'ai l'impression, de plus en plus demandeurs, de tout ça.
Et puis aussi, j'ajouterais de documentaires, de reportages, de photographies qui ont mis en lumière les conditions catastrophiques dans lesquelles travaillent en fait les humains qui fabriquent nos vêtements, et aussi qui ont mis en lumière que, en fait, oui, derrière chaque t-shirt que tu achètes à 4 euros, derrière chaque paire de chaussettes que tu achètes à 2 euros, il y a des humains qui travaillent dans des conditions abominables. Et ça, je pense qu'on n'en avait pas forcément conscience non plus.
Ouais, en fait, on n'avait pas, alors on l'a de plus en plus, je crois, mais on n'avait pas ce réflexe-là, en fait, de s'interroger. Mais pourquoi on n'avait pas ce réflexe? C'est pour ce qu'on a dit précédemment, les publicités, voilà, qui nous formatent et qui parfois nous empêchent, en fait, de prendre du recul, et de se dire, ce truc-là, ce t-shirt, il est à 4 euros, enfin, ouais, c'est pas normal, en fait, c'est pas une bonne affaire, c'est juste bizarre, quoi. Mais ouais, il n'y avait pas ce réflexe. Et ouais, effectivement, ouais, t'as raison, il y a eu aussi quand même un appui de certains médias. Et tu parlais de reportages, etc. Bah, si je peux en conseiller quelques-uns, moi j'avais vu notamment, et ça fait le lien aussi avec les fameux déclics que j'ai eus là, la question de début, parce que je l'ai pas précisé, mais il y avait aussi beaucoup de ça. C'est notamment les reportages bah, Cache Investigation. Il y en a eu un sur le coton. Je crois que c'était la face cachée du coton ou un nom un peu comme ça. Il y a eu un tout compte fait. Je sais pas si tu
Non,
l'avais vu.
celui-ci, je l'ai
Et il y
pas
a aussi
vu.
le film The True Cost, qui était hyper bien tourné, voilà, très informatif. C'est un peu mes trois ressources, le Cache Investigation, le tout compte fait et le film documentaire The True Cost. Et effectivement, alors c'est encore assez poussif, je trouve qu'on pourrait enfin que les médias pourraient en parler davantage. Mais c'est sûr que moi, quand j'ai commencé, quand j'ai eu l'idée, etc., il y a à peu près 3 ans, il y avait beaucoup moins d'infos à ce sujet. Et ouais, non, ça va plutôt dans le bon sens, je pense.
Je pense aussi, et tant mieux. C'est grâce à des projets comme le tien, grâce à des associations, tu le disais, notamment Slow We Are ici en France ou Fashion Revolution dans.
Ouais, le collectif éthique sur étiquette aussi, si je peux le citer.
Très très bien. De toute façon, je ferai un petit récap en barre d'infos parce que là, on a cité beaucoup de choses, de documents, de voilà. Donc, je ferai un petit récap pour que les auditeurs puissent s'y retrouver et surtout puissent visionner les documentaires dont on parlait et consulter les sites internet en question. Je voudrais revenir donc au moment où tu as créé cette page Facebook, ce groupe Facebook pour avoir des retours, des feedbacks. Ensuite, comment tu t'y es pris? Tu voulais lancer une gamme de vêtements?
Bah d'abord, ouais, donc c'était le groupe. Donc l'idée, c'était quand même de. Parce que avant de lancer le projet, fallait déjà savoir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fonctionné comme ça. Je voulais déjà savoir, bah, effectivement, les besoins des gens, etc. Pour orienter ensuite mes recherches. Par exemple, est-ce qu'on fait je sais pas, du made in France? Est-ce qu'on fait du coton bio ou simplement de l'équitable? Ou enfin, tout un tas de questions, quoi. Mais d'abord, avant de faire ces recherches-là, il fallait savoir en gros ce que les gens voulaient ou semblaient vouloir. Et du coup, la première étape, c'était d'abord d'avoir un certain nombre de personnes dans le groupe, puisque enfin, si tu t'adresses à 10 personnes, c'est bien gentil, mais ça va peut-être pas être très représentatif, quoi. Donc au début, j'ai eu un objectif quand même d'avoir pas mal de gens sur le groupe, mais pas n'importe quelle personne, des personnes vraiment bah, engagées. Et en fait, pour ce faire, c'était assez contradictoire parce qu'en même temps je voulais pas forcément que le groupe soit trop connu, peut-être un peu ces inquiétudes que quelqu'un je sais pas introduise le truc et me pique enfin tu sais on a souvent ce truc-là en tant qu'entrepreneur, on se dit peut-être qu'on va nous piquer une idée ou alors y a pas trop de risques là-dessus je pense, et c'est surtout la mise en œuvre de l'idée qui est importante, mais bref, je voulais pas non plus trop le montrer. Et du coup, en fait, je faisais une communication vraiment uniquement sur les groupes Facebook existants, donc d'autres groupes forcément en rapport avec le sujet.
D'accord.
Donc, je te donne un exemple. Il y avait, je sais pas, comme c'est un peu lié selon moi, il y avait Zéro Déchet, Zéro Déchet Rennes, tu vois, plein de groupes comme ça.
OK.
Il y avait déjà quelques groupes sur les vêtements. Mais à l'époque, pas tant. Donc, c'était des groupes plus généralistes, genre, je sais pas, consommation responsable, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai mis donc mon petit message, mon petit post dans tous ces groupes. Et le message, à l'époque, je faisais des copier-coller pour aller un peu plus vite. Bon, j'adaptais un peu le truc, mais en gros, c'était de dire, bah voilà, moi je suis en train de créer ma marque de vêtements éthiques. Je vous avoue que je sais pas encore trop quoi faire, mais ce que je sais, c'est que je veux faire le projet avec vous, enfin avec les gens, de façon collaborative. Et du coup, si vous voulez participer à l'aventure, bah voilà, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, on va faire des sondages, etc. Et en fait, donc il n'y avait rien de clair, quoi. Et pourtant, il n'y avait rien de clair, sauf les valeurs qui nous réunissaient, quoi. Et pourtant, bah, plein de gens, malgré cette incertitude, ont intégré ce groupe. Je continuais à communiquer sur le groupe. Quand on était 600, 700, ça restait mon média, mon principal média, et pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, j'avais que ça, en fait. Je communiquais seulement sur ce groupe. C'était avant le lancement du projet. Les besoins des gens, leurs freins, etc. Ah oui, et une anecdote, c'était là quand j'ai lancé le groupe, je pensais, en fait, je pensais plutôt partir sur des vêtements, tu sais, avec des phrases imprimées, un peu rigolotes ou, enfin, tu sais, c'était assez tendance à ce moment-là. Je sais pas trop. Alors moi, je connais pas forcément trop les tendances, mais je sais pas si ça marche bien encore. Ou... mais j'avais cette idée-là parce que j'avais l'impression que ça marchait pas mal. Et du coup, moi, j'aurais adapté, les phrases à, faire des phrases assez engagées ou rigolotes, mais en rapport, avec l'écologie, etc. Et en fait, c'est plus ou moins ça que j'avais soumis aux premières personnes du groupe. Et en fait, c'est les gens du groupe. Et pourtant, moi, je sais pas, j'étais pas spécialement fan de ces vêtements-là, mais bêtement, je me disais, c'est peut-être un truc plus original, ça peut peut-être plus marcher, voilà. Mais bien sûr, j'aurais fait pareil en, enfin, coton bio, etc. Et en fait, c'est les gens du groupe qui m'ont dit, ah ouais, bah c'est, j'avoue que c'est pas mal et tout, mais moi, je préférerais un projet, enfin, je préférerais des vêtements finalement assez simples, plutôt basiques, parce qu'en fait, c'est ça que je trouve pas et c'est plutôt ça dont j'ai besoin. Et en fait, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ça, donc bah, j'ai refait la technique du sondage là, et en fait, il y avait quand même une large majorité de gens qui préféraient les, donc l'option des basiques. Tu vois, ça m'a permis de partir plutôt là-dessus et d'orienter le projet là-dessus. Alors que si je m'étais peut-être que moi, bah, je serais parti sur l'autre projet qui peut-être aurait peut-être moins bien marché et même ça m'aurait, je pense, moins correspondu parce que au final, moi, les basiques, ça m'allait très bien parce que c'était déjà ce que je portais à l'époque beaucoup et bah, ce que je continue à porter. Parce que voilà, moi, je m'habille assez, enfin, assez simplement, quoi. Et donc en fait ça collait en plus à ce que je préférais. J'avais pas forcément pensé à ça au début parce que je me disais que c'était peut-être pas assez différenciant, etc. Et en fait après je me suis davantage renseigné et j'ai vu que finalement il n'y avait pas tant de marques que ça qui proposaient des basiques bio et des projets avec des belles valeurs, etc. On me suit, bah effectivement il y a, je comprends en fait pourquoi les gens ont un peu de mal à trouver. On va essayer de faire ce projet-là. Pour ces gens-là.
C'est vraiment intéressant d'avoir tout ce processus collaboratif en fait en amont de la création de marque et juste de réfléchir autour d'une idée. Ça, je trouve ça hyper hyper intéressant et très bah, très audacieux de ta part. Moi, je pense pas que j'aurais osé. Tu vois, quand j'avais l'idée de créer Basilic, j'aurais pas osé confronter mon idée à des centaines de personnes et voir ce qu'elles en pensaient et avoir leur retour, quoi.
Ouais, c'est vrai, il y avait un peu ce truc-là parfois de poster, par exemple, pour le logo, c'était aussi les gens qui l'ont choisi. Donc au début, il y avait une planche d'une vingtaine de logos, et il y avait un peu cette peur-là de se dire, mais ça se trouve, certains vont dire que, je sais pas, que c'est moche ou que c'est pourri. Et... Au final, moi, assez très rapidement, j'ai vu qu'en fait, les gens bah, étaient très bienveillants. Et souhaitais vraiment le mieux pour le projet. Et en fait, j'ai fait ça, ouais, sans trop réfléchir. Tu vois, je me suis pas pris la tête 15 ans à me dire, bah, attends, ils vont me juger, tout ça. Bah, enfin, j'ai pas eu forcément cette peur-là. Et ce projet, bah, plus tard, c'est quand même moi qui allais plus le porter. Mais tu vois, il y a eu ce ton, je pense, qui a aussi mis en confiance les gens. Aussi, ben, voilà, j'essayais de répondre vraiment à tout le monde dès le début, à ne pas compter mes heures, parce que mine de rien, c'était aussi du temps de prendre le temps, voilà, d'aller au fond des choses. Voilà, il y a des gens avec qui on a échangé des heures et des heures. Je pense que tout ça cumulé a fait que ben les gens avaient envie en fait de suivre le projet et d'y participer. Bah, c'est un conseil que je pourrais donner à des entrepreneurs qui voudraient se lancer. C'est ça, c'est de confronter son projet et ses idées en fait le plus tôt possible. Et éventuellement adapter les trucs qui vont pas trop, etc. Plutôt que de faire son truc tout seul dans son coin, en se disant bah sans doute que ça va plaire à ces gens-là ou peut-être que. Et en fait tu te bases sur des suppositions et bah c'est le meilleur moyen enfin, de se rater quoi.
Oui, et puis aussi, ce qui veut dire que le jour où tu te lances, où tu as les premiers vêtements qui sont arrivés, tu savais déjà que tu avais quand même un groupe de personnes qui les attendaient, qui en avaient envie, et donc c'était un peu moins.
Ouais, complètement. Bah, c'est ce que je conseillerais aussi. C'est bah, lorsque vous faites un crowdfunding, moi je trouve que c'est un super moyen pour lancer son projet sans prendre trop de risques. Mais l'idéal quand même, c'est de créer sa communauté, de créer son projet avant de lancer ce crowdfunding, histoire d'avoir, comme tu dis, voilà, ces premières personnes où tu es plus ou moins certain qu'elles vont acheter ou du moins qu'elles vont soutenir le projet.
Et donc, qu'est-ce que tu as développé comme vêtement? Parce qu'on en parle, mais on n'a pas encore détaillé. Donc, pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas encore la marque, qu'est-ce que tu as développé?
Le premier produit, c'était simplement en fait des t-shirts, un t-shirt col rond pour homme et un t-shirt col rond pour femme. Alors avec une petite broderie coton vert dessus qu'on peut choisir de positionner soit au niveau de la poitrine, soit en bas sur un côté, ce qui est plus discret.
D'accord.
Petite parenthèse, le coût des broderies, du choix des broderies, ça aussi, ça faisait partie de nos discussions dans le groupe. Et en fait, d'un côté, tu avais les gens qui souhaitaient vraiment mettre le logo en évidence, etc. Et eux, du coup, ils préféraient à la poitrine. Et tu avais une grosse partie des gens aussi qui préféraient quelque chose de plus discret. Et donc, au début, je demandais qu'est-ce qu'on fait entre les deux. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait tellement ces deux typologies, on va dire, de personnes. J'ai lancé les deux. Alors, ça me fait beaucoup plus de logistique, mais au final, ça convient à plus de monde aussi. Et même aujourd'hui, je précise que les gens qui n'aiment pas forcément le logo ou la broderie, ils peuvent aussi carrément acheter le vêtement sans broderie. En fait, ceux qui veulent vraiment le truc neutre, c'est possible et c'est 3 euros de moins. Ensuite, pendant le crowdfunding, j'avais promis qu'à partir de 200 précommandes, on allait lancer aussi des suites. Enfin, les suites, ils sont pas aussi tombés de mon chapeau, ça faisait aussi partie de nos discussions dans le groupe, etc. Et ensuite, plus tard, il y a eu des vestes capuches et donc zippées et des suites capuches. Ça, c'est venu parce que, donc ça, le projet a été lancé. Là, c'était bon, la page Facebook et tout ça, le site internet. Mais même si le projet était lancé, j'ai quand même continué, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, dans cette optique-là, à interroger les gens sur ce qu'ils souhaitent pour les prochains vêtements. Et je continue à le faire et je continuerai à le faire. Et en fait, bah là, le produit vraiment que les gens souhaitaient à ce moment-là, c'était vraiment les vestes zippées, tu vois, à capuche et les suites capuche, ce que je faisais pas encore. Donc j'ai lancé ça après. Ensuite, encore après, j'ai lancé des t-shirts mixtes pour enfants cette fois, parce que j'avais quelques, notamment des mères de famille, qui me disait, bon, bah, c'est cool, je me suis acheté mes vêtements pour moi, éventuellement pour mon mari, mais j'aimerais bien, j'ai un peu le même problème pour mes enfants, je trouve pas trop, etc. Et du coup, j'aimerais bien qu'il y ait des vêtements coton vert pour les enfants. Donc, pour l'instant, j'ai lancé des t-shirts pour enfants. À noter que les t-shirts, pour être complètement transparent, ils marchent un peu moins bien, aussi parce qu'il y a plein de gens, et ce que je comprends totalement, plein de parents en fait qui achètent plutôt d'occasion les t-shirts pour les enfants, comme ils grandissent vite, etc.
Est-ce que tout est fabriqué par le même atelier?
J'ai deux fabricants, forcément, après d'avoir vu les besoins des gens, etc., et ben, il était venu le temps aussi de faire les recherches de fournisseurs, de partenaires, etc. Et franchement, je t'avoue que c'est, je pense qu'on t'a déjà dû, on a déjà dû te dire ça, mais c'est franchement pas évident parce que alors soit par exemple t'as des fabricants en France, bon, qui vont être très bien, mais qui vont être bah forcément très chers aussi. Et quand tu débutes, c'est compliqué quoi. Et en même temps, souviens-toi que moi, les gens de mon groupe, ils me disaient que souvent c'était l'un des freins qu'ils avaient, les prix. Et du coup, moi, je voulais proposer des prix assez accessibles, en fait, dès le début, pour répondre aussi à ce besoin-là. Et donc, bah, j'ai vu assez vite que, enfin, entre guillemets, malheureusement, la France, c'était pas possible. Et en fait, du coup, j'ai fait des recherches. Et je voulais aussi quand même un partenaire, français. Un intermédiaire français, si tu veux, et en fait, donc entre-temps, j'ai passé des coups de fil dans plusieurs trucs. À chaque fois, je posais des questions vraiment précises sur l'usine, voilà comment ça se passe, les salaires des employés, je sais pas, les conditions de travail, etc. Et en fait, bien souvent, ben, les gens ne voulaient pas me répondre à ces questions. Donc, du coup, là, c'était mal parti. Mais au moins, ça me permettait de faire le tri, tu vois. Et en fait, jusqu'à temps que je tombe avec des recherches, en fait, Google, je crois, tout simplement. Google, bon, qui est pas le plus éthique, mais qui nous aide quand même pas mal. Et en fait, je suis tombé sur Biocoton. Et Biocoton, si tu veux, c'est une petite entreprise française qui va s'occuper en fait du sourcing et de la production. Donc là, c'est au Bangladesh. Et en fait, c'est eux qui se chargent de la culture du coton bio, qui dans mon cas, du coup, est faite en Inde, et qui ont le contact avec l'usine et qui vont aussi s'assurer que cette usine respecte bien tout ce qu'ils promettent. J'ai pu l'interroger sur toutes ces questions-là. Et en fait, c'est le seul qui m'a répondu clairement à ce que je lui demandais, quoi, tout simplement. Bah, du coup, où c'est produit. Donc là, c'est à Gazipur, c'est au Bangladesh. J'y suis allé, mais on y reviendra peut-être après, mais j'y suis allé en novembre dernier pour voir à mon tour cette usine-là. Mais en gros, voilà, j'ai choisi Biocoton, qui lui, donc, fait la culture du coton en Inde. Donc l'Inde, c'est le premier pays producteur de coton bio. Ouais, je précise que c'est du coton bio aussi, ce qui est très important. Et ensuite, effectivement, il fait la production au Bangladesh. Et donc ça, souvent, les gens te disent, ah ouais, Bangladesh, enfin, ça, j'imagine que c'est un peu la cata et tout. Mais c'est normal de penser comme ça parce que, bah, déjà, il y a une part de vrai, hein. Il y a beaucoup d'usines assez catastrophiques au Bangladesh, on va pas se mentir. Néanmoins, ce qui est dommage, c'est que dans les médias, etc., on appuie que sur ce qui se fait mal dans ce pays, alors qu'il y a quelques usines qui font les choses bien et quelques acteurs, et eux, en fait, on n'en parle pas trop, du coup, ce qui fait qu'on a une vision vraiment négative, en fait, sur ce pays-là. Alors que, enfin, je te raconterai peut-être après, mais moi j'y suis allé, enfin, j'ai pu me rendre compte que c'est un pays aussi qui a beaucoup de savoir-faire et beaucoup de choses à valoriser. Moi, j'ai visité donc l'usine de Biocoton à Gazipur au Bangladesh, et effectivement, par rapport à certaines usines qu'on voit dans des, je sais pas, dans des caches investigations, dans des reportages, etc. Où parfois ce sont des usines très petites où les gens sont oppressés ou des usines insalubres et dangereuses en fin de compte. Et ben moi l'usine que j'ai visitée donc celle de Biocoton et donc entre guillemets la mienne, j'ai le plaisir de dire qu'elle est assez grande, ce qui fait que les employés peuvent librement circuler, je dirais, sans être oppressé. Elle est assez moderne, ce qui fait que les machines, d'ailleurs, je posterai des photos à ce sujet là dans quelques temps sur le site et les réseaux. Les machines sont modernes, ce qui fait que voilà, c'est pas des trucs rouillés, c'est pas des trucs qui vont potentiellement être dangereux pour la santé des employés. C'est franchement du très bon matériel.
C'est pour ça que toi, tu voulais te rendre aussi au Bangladesh, c'était pour être sûr et certain de ce que tu proposais à tes consommateurs, être sûr de pas aussi envoyer un message qui peut-être était mensonger ou en tout cas voilà pour lequel tu n'étais pas totalement transparent.
Ouais, alors il y avait deux raisons ouais, pour ce voyage. Concernant ce que tu viens de dire, honnêtement, dès le début, moi j'avais eu un très bon feeling avec Eric, donc de Biocoton. Et honnêtement, enfin, je lui fais vraiment confiance. Donc franchement, j'avais peu de doutes. Après, effectivement, c'est bien entendu toujours bien d'aller entre guillemets vérifier sur place, mais aussi tout simplement par curiosité et aussi pour enrichir, on va dire ma culture personnelle, d'aller voir l'usine, comment ça a l'air de fonctionner. J'ai aussi là-bas parlé aux employés de l'usine, comment ils travaillent concrètement. Et il y a un fait qui montre qu'ils sont satisfaits, c'est que l'usine est, Enfin, c'est les mêmes personnes, tu vois, depuis des années. Donc, s'ils restent, c'est souvent ce que me dit Eric. Il me dit, bah, s'ils restent, c'est quand même que qu'ils sont satisfaits de leurs conditions. En fait, aussi la grosse raison, c'est bah, tout simplement que j'ai été invité au Bangladesh par l'association que je soutiens, enfin qu'on soutient avec mes clients. Et alors ça, j'en ai pas parlé, mais en gros, donc avec Coton Vert, on soutient l'association partenaire. En gros, cette association-là, elle vient en aide aux enfants des rues à Dhaka, donc au Bangladesh. Et en gros, ils ont fondé, ça va bientôt faire 20 ans, là, ils ont fondé un foyer, donc à Dhaka, où du coup, ils recueillent en fait ces enfants des rues. Alors, il y a deux, à dire, types d'enfants qui viennent au foyer. Il y a les internes, donc ceux-là, ils vivent, ils mangent, ils font tout au foyer. Il y en a en ce moment 80, si je dis pas de bêtises, au foyer. Et il y a également les externes. Alors eux, si tu veux, ils ont un toit, sauf que ils ont un toit souvent dans les bidonvilles voisins que j'ai eu l'occasion d'aller voir. Et ils ont un toit, mais leurs parents n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Ils profitent des services du foyer en externe, ça veut dire qu'ils dorment quand même chez eux. Et les externes, ils sont à peu près 250, je crois, ou pas loin de 300. Donc au total, ça fait 400 enfants pris en charge par cet asso-là. Mais en fait, ça, je l'ai pas abordé. Mais dès le début aussi du projet, et ça c'est l'un des seuls trucs que j'ai pas vraiment demandé aux gens quand on était sur le groupe, c'est que j'avais l'idée aussi, en plus, de faire un projet qui respectait les employés et davantage l'environnement aussi. Je voulais en faire plus, je voulais pas m'arrêter là, je voulais aussi que ce projet il bénéficie à une association. En fait, je reverse 1 € pour chaque article coton vert vendu. Tu vois, que ce soit un truc pas cher comme un tote bag qui coûte 12 € si je me trompe pas, bah il y a 1 € de reversé. Et pareil, si c'est un sweat un peu plus cher, dans tous les cas, ce sera 1 € pour l'association. Ce qui fait que là, il y a quelques temps, on était à 1500 articles vendus. Du coup, pour l'instant, j'ai reversé 1500 €. Donc là, en fait, en novembre dernier, où bah, j'ai eu l'occasion de partir avec Lynn, donc qui est bénévole pour cette association-là. En fait, elle y allait dans tous les cas. Elle y va 2 fois par an. Donc c'est une habituée du foyer. Et en fait, elle m'a proposé d'aller avec elle. Donc c'était une occasion bah, parfaite.
J'imagine l'émotion que tu as eue en rencontrant tous ces enfants et en te disant que bah voilà, grâce à tes consommateurs, grâce à ton projet, tu contribuais aussi à leur offrir bah, une vie un peu meilleure et un peu plus sympa.
Ouais, bah complètement. Bon, alors je suis pas le seul, heureusement pour eux, je suis quand même pas le seul donateur. Mais oui, ça fait hyper plaisir de contribuer à tout ce qu'ils font. Tu vois, l'argent, grosso modo, quand les gens me demandent à quoi ça correspond 1 €, en gros, tu sais, je te parlais des internes et des externes tout à l'heure. Et bah 1 €, si tu veux, c'est la prise en charge d'un externe par jour et par personne, quoi. Donc ça comprend voilà tout ce qui est activité, frais de santé, etc. Et 2 € c'est la même chose mais pour un interne, donc il y a en plus les repas et l'hébergement. Et ça peut aussi servir à, tu vois, très concrètement la dernière fois au foyer, bah ils avaient pas de, enfin ils avaient un filet de table de ping-pong mais il était tout pourri honnêtement. Je leur avais ramené un bon filet ou et sur place on avait aussi acheté des raquettes de badminton. Tu vois, ça peut servir à des choses comme ça aussi. Et d'ailleurs, bah, j'y retournerai. C'est évident que, enfin voilà, ce sera pas la seule fois que j'irai dans ce foyer-là. Et un autre truc aussi que j'adore, enfin qui m'a convaincu aussi de travailler avec eux, enfin travailler, c'est pas vraiment du travail, de collaborer avec eux, c'est aussi que cet asso-là, par rapport à d'autres assos, eux, ils ont aussi un suivi alors il me semble de 3 ans. Après le foyer, si tu veux, ils accompagnent toujours les enfants, même quand ils quittent le foyer, et ils se renseignent, voilà, tu vois, et ça, toutes les assos, c'est ce que m'avait dit Christian notamment, toutes les assos qui agissent au Bangladesh ne le font pas. Tu vois, elles agissent en temps présent, enfin, ce qui est déjà super, mais pas forcément dans la durée.
Oui, effectivement, c'est très intéressant le travail de cette association et j'imagine que pour toi, bah, c'est une grande fierté de pouvoir associer Coton Vert à ce projet. Voilà, on a beaucoup échangé récemment parce qu'avec la situation actuelle, je sais que ce n'est pas toujours facile pour les petites entreprises et surtout parce que toi, en fait, tu as mis en place quelque chose face à la crise du coronavirus que je trouve super. Tu as stoppé tes commandes. Et tu offres la possibilité à tes consommateurs, aux personnes qui ont envie de s'acheter un pull, un t-shirt, etc., de le faire sur ton site internet, mais de différer la livraison pour que le bien et l'achat leur soient livrés uniquement lorsqu'on sera sorti de cette mauvaise période. Est-ce que c'est là encore pour respecter l'humain? Est-ce que l'humain est au cœur de tes préoccupations? J'ai l'impression que oui.
Ouais, bah tout à fait. Alors j'ai mis quelques jours à me dire bah est-ce que je continue à livrer les gens, etc. Donc je pense que j'ai pris la décision d'arrêter les livraisons peut-être 5-6 jours après le début du confinement. Il y avait plusieurs raisons à ça. Bon, forcément il y avait le côté humain et le fait de se dire que bah c'est pas un produit de première nécessité, c'est pas une priorité pour les gens, hein, je crois, d'avoir un vêtement dans leur boîte aux lettres en ce moment. Forcément, bah, ça limite les risques d'attendre aussi l'issue du confinement parce que ben moins de personnes vont être, enfin, vont toucher ces colis, etc. Ça désengorge aussi un peu la poste et le travail des facteurs qui, j'imagine, doit pas être simple en ce moment. C'est pas une priorité actuellement, donc ne profite pas de. Enfin, je dis ça parce que parfois je vois des marques qui à la limite essayent de profiter de ça pour vendre et se différencier et dire bah nous on continue les livraisons avec des réductions, je sais pas quoi, mais je sais pas, je trouve ça assez malsain. Et globalement, toute cette situation, elle me permet de me rapprocher d'une part de mon audience entre guillemets, donc ça c'est particulièrement appréciable. Et il y a aussi un autre point, c'est qu'elle me laisse aussi plus de temps pour me permettre de développer la marque. Et du coup le développement il passe quand même pas mal par la communication, le marketing. Et typiquement j'ai pu faire des choses que j'avais laissé tomber ou sur lesquelles je m'étais pas trop consacré avant. Par exemple, tu vois, en ce moment, je fais de la publicité Facebook et j'ai plus de ce temps de recul, comme je suis déchargé de toute la logistique, ce temps de recul et d'analyse, tu vois, pour voir ce qui marche, ce qui marche moins. Voilà, d'écrire, d'essayer de bosser, tu vois, c'est un truc que j'avais quasiment jamais fait. J'ai un peu plus bossé mon référencement en mettant plus de mots-clés, des choses comme ça. J'ai modifié des pages de mon site, j'ai rajouté des options qui m'avaient été soufflées par certains clients. Un truc concret, tu vois, là je suis en train de rajouter Estelle porte du M et mesure telle taille, tu vois. Enfin ça c'est un truc que je n'avais jamais mis et là j'ai le temps pour faire des petits trucs comme ça.
Et voilà, c'est ici que Benjamin a été interrompu et que nous avons été coupés dans notre conversation. J'espère que cet épisode vous a tout de même plu. N'hésitez pas à consulter la barre de description pour retrouver l'ensemble des ressources évoquées durant l'interview. Les nombreux documentaires cités devraient vous occuper pendant vos journées confinées. Plus que jamais, nous devons agir et chambouler nos habitudes pour repenser le monde de demain. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos collègues ou votre famille. Et surtout à me rejoindre sur les réseaux sociaux @basilicpodcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt !